VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Le président tunisien Kais Saied a assuré hier qu'à défaut d'un vote de confiance pour valider le futur gouvernement, la seule autre option était de dissoudre l'Assemblée élue il y a 4 mois et déclencher des élections anticipées. Les négociations se poursuivent 2 jours après que le principal parti parlementaire Ennahda a décidé de ne plus participer au futur gouvernement constitué avec l'appui de M. Saied, ni de le soutenir, rendant improbable donc son approbation par le Parlement tunisien. À défaut de gouvernement validé par le Parlement, Kais Saied pourra dissoudre l'Assemblée nationale à partir du 15 mars prochain. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo va à Addis Abeba, la 3e et dernière étape de sa première tournée en Afrique, s'est entretenu hier à Luanda avec le président João Lourenço. Il a salué la lutte contre la corruption engagée par le leader angolais, notamment contre la famille de son prédécesseur, José Eduardo Santos, John Lindon.
En 2 ans et demi au pouvoir, le président Lourenço a abattu un travail formidable pour faire de la corruption un fantôme du passé, a déclaré Mike Pompeo lors d'une conférence de presse après s'être entretenu avec le président angolais. João Lourenço augmente la transparence, il aide les institutions financières à faire le ménage et poursuit les coupables, a salué le secrétaire d'État américain en tournée en Afrique. Depuis qu'il est président, João Lourenço, membre du parti au pouvoir depuis l'indépendance de l'Angola en 1975, a procédé à d'importants changements dans les institutions, les entreprises publiques et l'appareil sécuritaire du pays au nom de la lutte contre la corruption. Plusieurs proches de son prédécesseur sont directement visés, notamment la fille de l'ex-président Isabel dos Santos, limogée de son poste de PDG du géant pétrolier public Sonangol et son demi-frère José Filomeno dos Santos, qui présidait le fonds souverain du pays. Le secrétaire d'État américain s'est également dit encouragé par les efforts du gouvernement angolais en vue de privatiser 195 entreprises publiques, une décision qui va grandement attirer des investissements privés.
La pression djihadiste est très forte dans l'extrême nord du Togo, c'est ce qu'a affirmé le président Faure Gnassingbé qui a rendu visite à ses troupes déployées le long de la frontière avec le Burkina Faso. Abdourahman Dia.
La menace est réelle et la pression est très forte. Nous avons connu récemment des combats jusqu'à 7 kilomètres de notre frontière, a déclaré le chef de l'État togolais alors qu'il se rendait sur des postes militaires avancés près du Burkina voisin, déchirés par les violences. Nous notons que les attaques au Burkina sont de plus en plus meurtrières. Malheureusement, le Bénin aussi vient de subir un coup, donc cette pression, nous la ressentons chaque jour un peu plus, a-t-il ajouté. Le président dit essayer de tirer les leçons de ce qui se passe ailleurs, et pour lui, les populations, les leaders religieux et les chefs traditionnels doivent aider les forces de défense et de sécurité. Notre principale richesse, c'est la stabilité et la sécurité, et si nous perdons cela, tous nos projets de développement seront compromis et remis en cause, a-t-il également affirmé. Le chef de l'État a rappelé que plusieurs arrestations avaient eu lieu ces derniers mois sur le territoire togolais. L'élection présidentielle se tient samedi au Togo.
D'importantes manœuvres militaires annuelles ont débuté lundi dans le centre-ouest de la Mauritanie sous commandement américain en présence de quelques 1600 soldats de pays africains et occidentaux, alors qu'une réduction des forces américaines en Afrique est actuellement à l'examen à Washington. Une cérémonie d'inauguration de l'édition 2020 de l'exercice Flintock a eu lieu lundi à Ata, dans le centre-ouest de la Mauritanie. Les exercices qui doivent s'achever le 28 février se déroulent également à Nouakchott et Kaedi et dans la ville sénégalaise de Thiès. L'armée camerounaise a démenti lundi que des militaires aient tué 22 civils, dont des enfants, il y a 3 jours en zone anglophone, assurant que le drame était le résultat d'un malheureux accident après des échanges de tirs entre forces de sécurité et rebelles sécessionnistes. Cette version des militaires qui ne parle que de 5 victimes civiles a immédiatement déclenché un tollé sur les réseaux sociaux. Vendredi, peu avant l'aube, des hommes armés 40 à 50 portant tous des uniformes de l'armée et certains masqués, selon des témoignages recueillis par des travailleurs humanitaires contactés par l'AFP, ont attaqué le quartier de Ngabou dans le village de Ntoubo, puis ont tué par balles et brûlé des habitants.
Nos infos sur voaafrique.com.
Le jury d'un tribunal pénal de Manhattan, ici aux États-Unis, doit se réunir ce matin pour entamer ses délibérations après 3 semaines et demie de procès du producteur Harvey Weinstein, dont le sort paraît incertain. Celui qui fut jadis le producteur de cinéma indépendant le plus puissant au monde est-il coupable de viol et d'agression sexuelle avec comportement prédateur comme circonstance aggravante? C'est la question à laquelle vont devoir répondre à l'unanimité les 12 jurés du procès. Les primaires démocrates en vue de désigner l'adversaire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine du 3 novembre prochain vont se poursuivre samedi dans le Nevada. Les candidats démocrates vont batailler pour se partager 36 délégués lors des caucus dans cet État. Avant cette échéance du Nevada, Bernie Sanders et Michael Bloomberg, deux candidats, ont intensifié leurs attaques mutuelles, le premier accusant l'ancien maire de New York de vouloir acheter l'élection, tandis que le second reprochait au sénateur socialiste du Vermont et à ses partisans de nuire à l'unité du parti. Comme chaque année, Chicago a accueilli le déjeuner annuel de la NBA Africa en marge de son week-end All-Star 2020, une occasion pour la NBA et la FIBA de dévoiler les 12 clubs, les maillots officiels de la Basketball Africa League, la première ligue professionnelle créée par la Ligue nord-américaine en dehors des États-Unis et du Canada. Yacouba Ouedraogo était sur place, compte rendu.
C'est désormais une réalité, l'Afrique a sa ligue professionnelle. Et pour lancer ce nouveau joyau de la NBA sur le continent, la crème de la balle au panier a tenu à assister à cet instant historique. Dirigeants, anciennes et actuelles gloires du basket l'ont tous reconnu, il est temps pour le continent d'abriter sa propre ligue professionnelle. Adam Silver, commissaire de la NBA.
Nous avons lancé la NBA Africa avec notre bureau à Johannesburg, mais notre implication en Afrique date de bien avant cela. De cette période à nos jours, nous avons 40 joueurs en NBA qui sont nés en Afrique ou qui sont de la première génération d'Africains. C'est incroyable.
Un intérêt pour le continent qui a grandi et abouti à la création de cette ligue professionnelle de basketball. Andres Zaklis, secrétaire général de la FIBA.
La ligue est un produit de la collaboration entre la FIBA et l'NBA, une collaboration déjà de 30 ans. C'est très important pour nous qu'après beaucoup de projets sur le développement, comme le Basketball Without Borders, ou par exemple les Junior NBA dans plusieurs pays, maintenant nous avons un projet d'autre niveau, un projet d'une ligue continentale africaine.
Les équipes qui participeront à cette saison inaugurale ont été présentées, de même que leur maillot et équipement sponsorisé par Nike et Jordan Bryant. Pour un début, la balle a mis les moyens pour s'assurer de la suivi du projet. Amadou Gallo Fall, président de la Basketball Africa League.
Pour démontrer à quel point nous croyons à ce projet et à quel point nous croyons à notre opportunité en Afrique, nous allons investir lourdement au début pour nous assurer que les équipes aient les possibilités qu'il faut pour participer à cette saison inaugurale et au-delà.
Une chance donnée par la NBA aux générations actuelles grâce aux efforts de leurs dévanciers. La malienne Amchetou Maïga Ba est une ancienne joueuse de la WNBA.
À travers ces compétitions, et ces jeunes auront des idoles qui pourront suivre et se dire « Non, moi aussi je peux le faire. » C'est pas seulement aux États-Unis, mais ici chez nous-mêmes on peut le faire.
Didier Mbenga, belge d'origine congolaise, a joué en NBA avec les New York Knicks. Il voit en cette Basketball Africa League l'aboutissement d'un travail de longue haleine.
D'abord, c'est une fierté. Je suis vraiment content parce qu'on a travaillé sur ça. Et pour nous, c'est une très très grande opportunité de s'affirmer. Après tous les efforts fournis à travers le joueur africain en Amérique, il était temps pour nous maintenant d'être autonome, de s'assumer. Voilà pourquoi cette ligue, elle est vraiment bien.
Les champions des ligues nationales de l'Angola, d'Égypte, du Maroc, du Nigeria, du Sénégal et de la Tunisie se sont qualifiés d'office pour la saison inaugurale. Les 6 autres équipes viennent d'Algérie, du Cameroun, de Madagascar, du Mali, du Mozambique et du Rwanda. Les clubs ont été divisés en 2 conférences de 6 chacune. Le Caire, Dakar, Lagos, Luanda, Monasti et Salé accueilleront les rencontres. Les premiers matchs auront lieu à Dakar au Sénégal donc le 13 mars prochain.
Les Boy Scouts of America, principal mouvement scout des États-Unis, ont annoncé mardi déposer le bilan plombé par des accusations d'abus sexuels qui ont donné lieu à une série de procès. L'organisation qui compte 2,2 millions d'adhérents âgés de 5 à 21 ans a choisi la procédure de sauvegarde pour pouvoir poursuivre son activité et créer un fonds d'indemnisation des victimes d'abus sexuels selon un communiqué publié mardi. Fin de ce journal. Le prochain, dans 50 minutes, vous retrouverez Henri Francisque. Bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.